Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est une campagne éclair qui se termine ce soir et le Rassemblement National va devoir partir en opération SAV après la sortie de l'un de ses députés sur les binationaux, d'autant que désormais Emmanuel Macron s'en mêle. Une polémique qui fait rage depuis plusieurs jours mais qui ne change rien. Le RN pourrait même obtenir la majorité absolue selon un dernier sondage Elab.
Et puis notez qu'à 8h30, mon invité c'est le Premier ministre Gabriel Attal et cette interview on la prépare ensemble. Appelez-moi dès maintenant au 3216 vos questions, vos interpellations pour Gabriel Attal, on vous attend.
Aux États-Unis, un Donald Trump plein d'aplomb et un Joe Biden très embrouillé, les démocrates inquiets après le premier débat à 4 mois de l'élection présidentielle.
Dernier jour de campagne et une ultime polémique qui nous vient du Rassemblement National.
Elle couvait depuis lundi et la présentation du programme par Jordan Bardella avec cette mesure, l'interdiction pour les binationaux d'accéder à certains postes stratégiques. Le Premier ministre Gabriel Attal n'a d'ailleurs pas manqué d'attaquer son rival là-dessus au cours des deux débats. Et alors que le RN tentait de calmer le jeu, l'un de ses députés a remis une pièce dans la machine hier soir en appelant à élargir cette interdiction à tous les postes ministériels, Cyprien Pézeril.
Aucun Français binational dans un gouvernement, en plus donc de l'accès à certains emplois publics. C'est la position du monsieur éducation du RN, Roger Chudeau.
Je pense que les postes ministériels doivent être détenus par des franco-français. Il y a un problème de double loyauté à un moment donné.
Encore hier matin, les dirigeants du RN assuraient que l'interdiction ne concernait qu'une 50aine de postes. Mais Roger Chudeau va donc plus loin et cite l'exemple notamment de Najat Vallaud-Belkacem.
Comme elle est franco-marocaine, elle a marqué un intérêt soutenu pour l'enseignement de l'arabe dans notre pays et que ce n'était pas tout à fait utile à ce moment-là, voyez-vous.
Manuel Valls, espagnol, Premier ministre, ça serait plus possible.
Écoutez, je ne pense pas que ce soit souhaitable.
Indignation immédiate et unanime à gauche. À Bruxelles, il est plus de minuit quand Emmanuel Macron réagit lui aussi.
Pouvoir dire cela aujourd'hui, c'est une dissolution des esprits et des consciences. Et je ne m'y résoudrai jamais, quoi qu'il arrive. Ce qui se joue dans la parole des inhibés qu'on a ces derniers jours dit quelque chose d'une trahison profonde de ce qu'est notre République et ses valeurs.
Sans se dédire, le député sortant du RN a finalement reconnu qu'il s'agissait d'une position personnelle. Lundi, pourtant, Jordan Bardella avait réclamé de ne pas passer toute la campagne sur cette mesure.
Le RN qui tente d'éteindre la polémique depuis lundi, mais pour l'heure, elle ne semble pas affecter les intentions de vote pour le parti de Jordan Bardella qui fait toujours la course en tête. Romain Cluzel du service politique d'RMC, le tout dernier sondage Elab publié aujourd'hui pour BFM et la Tribune dimanche, crédite le RN de 36% des voix, ce qui signifie, Romain, une possible majorité absolue.
Oui, entre 265 et 295 sièges pour le Rassemblement National et ses alliés. Si on prend la projection de sièges la plus haute, 295, donc on est au-dessus des 289 députés synonymes de majorité absolue à l'Assemblée. Concrètement, cela signifie que le RN et les Républicains de la branche Ciotti n'auraient pas besoin de composer avec d'autres groupes à l'Assemblée pour passer leur texte. L'extrême droite majoritaire dans l'hémicycle, ce serait évidemment une première dans l'histoire de la Ve République.
Et l'autre enseignement de ce sondage, Romain, c'est la très forte participation attendue dès le premier tour.
Oui, cette participation, elle pourrait atteindre 63 à 65%. C'est du jamais vu depuis plus de 20 ans pour des élections législatives. En comparaison, en 2022, après la réélection d'Emmanuel Macron, seulement 47% des électeurs s'étaient déplacés aux législatives. La dissolution semble avoir un effet choc sur la mobilisation, mais quel camp va en profiter ? Cela reste très incertain parce que un Français sur quatre hésite encore sur son choix selon ce sondage, alors que la campagne se termine ce soir à minuit.
Lui se mobilise depuis son cabinet à Saint-Martin-des-Besaces dans le Calvados. Un médecin menace d'arrêter d'exercer si son village choisit ce qu'il appelle l'extrême violence. Le parti n'est pas directement nommé, mais c'est bien le RN qui est arrivé en tête dans sa commune aux européennes. Et si ça se reproduit aux législatives, eh bien ce sera 100 mois, dit le médecin dans une lettre affichée dans sa salle d'attente. Mais les habitants n'approuvent pas tellement la démarche, Martin Cadoret.
Des votes inspirés par la haine et la malveillance. Voilà comment le médecin de ce petit bourg qualifie le vote RN. Sophie a lu sa lettre affichée dans la salle d'attente.
Je trouve qu'il est quand même dans le jugement. Il reste poli, il reste correct, mais voilà. Pour moi, c'est du chantage.
Dans cette petite ville, parler politique semble quasi tabou.
Parce que bon, bah après, ça fait des conflits, quoi.
Et c'est bien pour cela que cette lettre agace Aurore.
Je pense que c'est maladroit entre soigner les gens et avoir son avis politique. Oui, non, je trouve qu'il n'y a pas de rapport. Après, voilà, non, ça ne m'empêchera pas d'aller le voir. Côté de ça, c'est un super docteur.
Dans la boulangerie d'Élodie, la démarche du médecin fait débat.
Chacun a le droit de voter pour qui il veut. Alors moi, c'est plus
plus ça qui me perturbe qu'on l'affiche comme ça. C'est comme si moi je disais demain j'arrête de faire du pain.
Ouais, monsieur.
Merci, au revoir.
Il a juste mis un truc. Oui, il a affiché en disant que voilà.
Moi je suis très contente qu'un médecin prenne ces valeurs-là. On parle souvent des célébrités, tout ça, qui vont un peu donner ce qu'ils en pensent. Bon, bah là c'est pas une célébrité, mais ça reste un médecin de village et je trouve qu'au moins c'est important.
Régis, lui, pense au contraire que la lettre n'aura aucun effet.
Il met ce qu'il veut, mais bon, les gens voteront ce qu'ils ont envie de voter de toute façon, donc ça va pas changer grand-chose. Ça serait quand même dommage qu'on se retrouve sans médecin juste pour un vote.
Le médecin, lui, dit ne pas vouloir donner de leçons. Mon cri du cœur, explique-t-il, est un appel sincère à des discussions fraternelles avec mes patients.
Et dimanche soir, ne manquez pas notre soirée spéciale législative sur RMC, émission animée par Olivier Truchot dès 19h45. Les résultats de ce premier tour, les réactions politiques, nos reporters sur le terrain et vous au 32-16.
7h06 sur RMC, on a donc assisté cette nuit à un véritable show à l'américaine.
Pour le premier débat sur CNN entre Joe Biden et Donald Trump à 4 mois de l'élection présidentielle américaine, inflation, immigration, Ukraine, tous les sujets y sont passés. Le ton est souvent monté entre les deux hommes. Antoine Hollard, vous êtes le correspondant d'RMC aux États-Unis. Joe Biden assure s'en être bien sorti ce matin face à son prédécesseur, mais clairement, il n'y a qu'un seul vainqueur.
Oui, ce duel était un match de boxe et Joe Biden a passé quasiment 90 minutes dans les cordes à subir les coups et les attaques de Donald Trump. Il a été mis en difficulté et c'était attendu sur l'économie et l'immigration. En revanche, ce qui est plus inquiétant pour lui, c'est qu'il n'a pas réussi à marquer des points sur des sujets où a priori il avait l'avantage, comme l'avortement. Ses réponses étaient brouillonnes, confuses et peu convaincantes. Par ailleurs, sur la forme, Joe Biden a semblé perdu, hagard, parfois même résigné. Il voulait profiter de ce débat pour rassurer sur ses capacités mentales et physique, c'est raté. Et je peux vous dire qu'en coulisses, les démocrates ce soir sont très inquiets pour la suite de la campagne. Alors, de son côté, Trump, lui, a réussi à dérouler son argumentaire, parfois en racontant n'importe quoi, mais sans jamais vraiment être contredit. Par ailleurs, sur la forme, il a réussi à garder son calme. Ça, c'était très important pour lui, pour aller chercher des voix chez les électeurs indécis. Ce débat marquait en tout cas le début de la campagne. Et vraiment, ce soir, on a le sentiment que Joe Biden a pris un très mauvais départ.
7h07, c'est la finale du top 14 ce soir. L'Union Bordeaux-Bègles affronte Toulouse. Coup d'envoi à 21h05 à suivre sur RMC. En football, les Bleus ont repris l'entraînement hier et préparent leur 8e de finale de l'Euro face à la Belgique. Ce sera lundi et pas question de sous-estimer l'adversaire Arthur Perrault.
Oui, la prudence reste de mise dans le groupe France, tout aussi fragile que les Belges deuxièmes de leur groupe, visés par une bronca de leurs supporters après leur match nul contre l'Ukraine. Mais le défenseur William Saliba connaît les qualités de cette équipe.
On sait que ça va pas être facile, hein. C'est une équipe très bonne avec de très grands joueurs. Donc voilà, on va pas les prendre de haut et on va tout donner pour se qualifier en quart de finale.
L'homme à surveiller côté belge, Romelu Lukaku, une passe décisive et zéro réalisation pour l'attaquant de l'AS Rome. Mais il s'est vu refuser 3 buts par le VAR. Le défenseur d'Ayo Upamecano reste méfiant.
On sait tous ce qu'il est capable de faire. C'est un joueur qui marque beaucoup de buts. Physiquement, il est au-dessus de la moyenne. Il est très fort physiquement et il joue pas tout seul. Ça va être la Belgique. On va pas jouer que contre Lukaku. On va pas se focaliser que sur Lukaku. On sait que c'est une arme dangereuse, mais il y a pas que lui.
Affronter le finaliste de la dernière Coupe du Monde, une perspective qui n'inquiète pas le Belge Woodface, qui dit ne pas avoir peur. William Saliba lui répond.
Nous aussi, on n'a pas peur de la Belgique. On a peur de personne. Et s'il a pas peur de nous, tant mieux pour lui. On verra lundi et on va tout faire pour gagner.
Les Bleus ne se sont plus inclinés face à la Belgique depuis le 7 juin 2015 et un match amical au Stade de France.
Et puis J-1 avant le départ du Tour de France. Pour la première fois, c'est à Florence en Italie que les coureurs vont s'élancer. On y sera dans le journal de 7h30.